France Inter, le 7-9.
7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est la ministre de la Santé et des Solidarités.
Bonjour à vous Agnès Buzyn.
Bonjour Léa Salamé.
Et merci de commencer cette nouvelle saison avec nous. Vous êtes en première ligne en cette rentrée, vous portez les dossiers les plus lourds, les retraites, la loi bioéthique qui arrive à l'Assemblée nationale. Et on va en parler évidemment, mais d'abord on commence par les urgences si vous le voulez bien. Madame la ministre, on vous a interrogé avant les vacances longuement à ce micro sur la question. Vous nous avez dit on va vite régler le problème. Deux mois après, le mouvement s'étend. Il y a aujourd'hui 220 services d'urgence en grève sur les 650 que compte le pays. Pourquoi vous n'arrivez pas à régler cette crise des urgences ?
Alors, les solutions, elles sont nombreuses en réalité. Elles arrivent, elles vont m'être apportées par le rapport que j'ai demandé à Thomas Meynier et au professeur Carli. Mais en réalité, nous voyons que beaucoup de pays ont changé de modèle d'urgence. En fait, la consommation de soins des Français a évolué. Ils consomment des soins aux urgences parce que c'est plus rapide, parce qu'on a du mal à trouver un médecin généraliste avec des rendez-vous de consultation sans rendez-vous justement.
Oui. Et du coup, les urgences ont explosé. Ça, on connaît le constat. Ça fait 10 ans que ça dure.
Le constat montre que la fréquentation augmente de 5% par an. Et donc, d'autres pays que nous qui ont eu à faire face au même problème ont changé complètement, radicalement leur modèle. Donc, je pense que nous allons vers un chamboulement des organisations. Ça va être présenté au mois de septembre avec des vraies différences organisationnelles. Je veux discuter avec les partenaires sociaux. J'ai rendez-vous avec eux parce que c'est important aussi quand on transforme.
Mais sauf que vous nous dites ça à chaque fois, pardon d'être... La crise qu'on vit, il faut le savoir, la crise est inédite par son ampleur et par sa durée.
Alors, des services sont sortis de la crise.
Oui, il y a des services qui y rentrent.
28 services ont signé des protocoles d'accord parce qu'ils ont trouvé des solutions locales. Il n'y a pas qu'une solution. Il y a beaucoup de solutions qui sont différentes d'un territoire à l'autre parce que les problèmes sont différents d'un territoire à l'autre.
Ils réclament, les grévistes, 300 euros de plus et 10 000 postes supplémentaires. Vous dites c'est non, c'est impossible.
Le problème, c'est que ce n'est pas la solution. D'abord, 300 euros de plus, ça, je comprends qu'on les réclame, mais ça ne résoudra pas la crise des urgences. Ça ne fera pas qu'il y ait moins de personnes aux urgences. Et simplement d'augmenter les postes ne résout pas les problèmes d'organisation. Les locaux ne sont pas extensibles sans fin. Et puis, il y a énormément de Français qui viennent aux urgences alors qu'ils pourraient être vus par un médecin généraliste. Et le problème, c'est simplement l'accès aux soins en ville. Alors, il faut qu'on règle l'amont avant d'étendre indéfiniment nos services d'urgence.
Justement, une des idées pour désengorger les urgences, est-ce que vous nous la confirmez ce matin, c'est de mettre en place un nouveau numéro de téléphone, le 15 bis, qui permettrait aux gens qui appellent les urgences d'être orientés. On leur dit au téléphone s'il faut en urgence aller aux urgences ou s'ils peuvent attendre.
Donc nous travaillons sur ce qu'on appelle un numéro de téléphone de régulation. C'est ce qu'on fait d'autres pays, par exemple au Danemark ou en Hollande. Vous n'entrez jamais aux urgences sur vos deux pieds. Vous êtes obligé de téléphoner avant d'arriver aux urgences pour savoir s'il n'y a pas une autre façon d'accéder aux soins.
C'est violent ça, non ?
Alors ça c'est très violent évidemment, c'est pas ce que je souhaite. Mais ce que je veux expliquer par là, c'est que il y a certainement beaucoup de patients qui pourraient être vus par d'autres médecins que ceux qui sont aux urgences aujourd'hui.
Autre gros sujet que vous portez, la loi bioéthique qui prévoit la PMA pour toutes. Elle arrive à l'Assemblée fin septembre. Dès demain commencent les premières auditions. On rentre dans le concret, Madame la Ministre. Une des questions qui n'est pas tranchée concerne le stock des gamètes aujourd'hui disponibles. Est-ce qu'il faudra le détruire totalement une fois que la loi entrera en vigueur, puisque désormais les donneurs doivent accepter la levée de l'anonymat ? Est-ce qu'on ne prend pas le risque d'une pénurie ?
Alors, non, d'abord, on ne détruira pas complètement le stock de gamètes. Nous voulons une période de transition. Le stock de gamètes va continuer à être utilisé en attendant que nous constituions un autre stock de gamètes qui répondra aux nouvelles exigences, c'est-à-dire que le donneur ait donné son consentement à pouvoir être recontacté par le jeune à l'âge de 18 ans.
C'est donc ce qu'on appelle l'accès. Dans un premier temps, les femmes qui auront accès à la PMA, il n'y aura pas de levée d'anonymat, c'est ça que vous
Absolument.
Dites ?
Absolument. Donc il y aura par décret une date pivot à laquelle nous déciderons de changer de système. Et donc nous n'allons pas détruire du jour au lendemain le stock de gamètes, d'autant plus que nous n'avons pas encore reconstitué un nouveau stock.
La manif pour tous prévoit déjà une grosse journée de mobilisation le 6 octobre prochain. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait fustigé la méthode de François Hollande pendant le mariage pour tous en disant « on a humilié une partie de la France, il ne faut pas humilier ». Est-ce que vous pourriez répéter cette phrase-là aujourd'hui ? Il ne faut pas humilier la manif pour tous ?
Je ne sais pas si j'utiliserai le mot « humiliation » qui a un côté très volontaire. Je ne suis pas sûre qu'il y avait une volonté d'humilier. Mais je pense qu'il faut être sensible à l'expression des convictions de chacun. Or, une loi de bioéthique n'est pas une loi de rupture, c'est une loi sociétale qui vise à accompagner les changements de mentalité d'une société. Mmh. Donc, je trouve qu'on doit être prudent dans la façon dont on aborde cette loi. Je le suis, je respecte toutes les opinions.
Mmh. Les retraites. Agnès Buzyn, d'abord, rassurez-nous, c'est toujours vous qui portez les retraites ?
Oui, c'est moi qui porte les retraites. Il y a eu une organisation qui a été choisie pour mener à bien la première phase, c'est-à-dire la consultation avec les partenaires sociaux. Ça a bien fonctionné. Cette organisation, c'était un haut commissaire.
Qui s'appelle Jean-Paul Delevoye. Et dont on dit qu'il rentrerait au gouvernement pour vous soulager, lit-on, parce que vous crouleriez sous la tâche, c'est vrai, tout ça?
J'ai pas mal de travail, je vous le confirme. Mais nous avons maintenant une deuxième phase qui s'ouvre, une phase où nous devons écrire la loi. C'est mon administration.
Qui va l'écrire? C'est vous, c'est Jean-Paul Delevoye, futur ministre.
Donc c'est l'administration du ministère des Affaires sociales qui écrit cette loi. Et puis, nous verrons à ce moment-là quelle est la meilleure organisation pour y parvenir. Est-ce que Jean-Paul Delevoye doit rentrer au gouvernement ou pas? C'est le choix du président de la République et du Premier ministre.
Donc, alors nous parlons, vous n'êtes pas dessaisi du dossier des retraites et c'est vous qui porterez la loi.
De toutes les façons, nous avons travaillé de concert avec Jean-Paul Delevoye et ces questions ont été toujours sur la table entre lui et moi.
Vous attendez son arrivée?
Mais il est à côté de moi tous les jours.
Nous non, mais je veux dire au gouvernement, pour être encore plus proche.
Non, mais nous sommes dans le même couloir. Son bureau est à côté du mien. Nous nous voyons tous les jours. Donc,
vous avez annoncé la semaine dernière qu'une consultation citoyenne sera organisée sur les retraites. Comment ça va se passer? Parce que là, pardon, c'est un peu flou. On va se prononcer sur Internet, on va se prononcer dans les mairies, on va voter pour ou contre l'âge pivot de 64 ans. C'est pas très clair.
Donc, ça correspond à l'acte 2 du quinquennat, qui est une méthode où on veut consulter énormément les Français. Donc, je pense qu'on est cohérent avec les annonces du président de la République. Jean-Paul Delevoye a mis sur la table un rapport avec des préconisations qui sont issues des 2 ans de travail qu'il a fait. Maintenant, le gouvernement, les politiques s'emparent de ce rapport et doivent discuter sur la base.
Mais c'est quoi cette grande consultation? C'est quoi l'histoire?
La façon dont les choses vont s'organiser n'est pas encore actée. Nous rencontrons avec le Premier ministre et Jean-Paul Delevoye le 5 et 6 septembre prochain tous les partenaires sociaux. Mmh. Cette question-là sera sur la table. Comment consulter, comment interroger les Français. Et donc, je pense que les annonces seront faites à l'issue de ces rendez-vous avec les partenaires
sociaux.
Vous avez
un avis, vous, personnellement, sur la méthode de consultation?
J'ai plusieurs propositions.
Justement, lors de cette réunion prévue le 5 septembre prochain à Matignon, vous recevez les syndicats pour discuter des différentes pistes. L'une d'elles fait l'unanimité contre elle, c'est le fameux âge pivot à 64 ans pour avoir une retraite à taux plein, une mesure stupide, dit la CFDT, injuste et individualiste pour la CGT. Est-ce que ce point qui est déterminant dans le projet Delevoye, est-ce que ce point est encore négociable?
Alors, ce qui est un fait aujourd'hui, c'est qu'il existe un âge d'équilibre du système, c'est-à-dire que c'est un âge où aujourd'hui, en fonction de ce que représentent les pensions dans notre budget en fonction de la durée de vie moyenne des retraités, fait que le système est à l'équilibre autour de 64 ans. Donc cette question est évidemment sur la table. Est-ce que cet équilibre du système doit se traduire en âge pivot? C'est une des propositions.
Donc c'est encore négociable.
C'est évidemment aujourd'hui dans la question de la gouvernance. Quand il y aura une gouvernance autour des retraites où les partenaires sociaux auront leur mot à dire, ils auront leur mot à dire sur un certain nombre d'items, dont l'âge pivot.
Rapidement, beaucoup craignent que cette réforme produise des effets de seuil ahurissants avec votre système d'incitation financière. Est-ce que c'est normal qu'un ouvrier qui a commencé tôt à travailler et qui prend sa retraite à 62 ans subisse une décote de 10% alors qu'un cadre qui partirait à 66 ans à la retraite bénéficie d'une surcote de 10%? En fait, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste ce que vous êtes en train de faire?
Ce n'est pas parce que le système est universel qu'il est unique. Il y a évidemment des dérogations qui vont se poursuivre. Les carrières longues sont considérées en tant que telles et donc il faut arrêter d'imaginer que c'est un système absolument totalement identique pour chaque Français.
Agnès Buzyn, 2 petites questions pour terminer. Les municipales arrivent en mars. Beaucoup de vos camarades au gouvernement se positionnent pour être sur les listes. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous serez candidate quelque part?
Non. Pour l'instant, j'ai des lois à porter. Elles sont, vous l'avez dit vous-même, extrêmement attendues, notamment la loi de bioéthique dans les 3 prochains mois. Et donc, je suis à fond sur les réformes de mon ministère.
Est-ce que vous comprenez la démarche de Cédric Villani qui sera en voie d'annoncer une candidature dissidente à celle de Benjamin Griveaux à Paris? Est-ce que pour vous, vous comprenez son envie ou c'est de la trahison?
Non, je comprends son avis, son envie évidemment, il l'a toujours exprimé, cela étant dit, je pense que l'intérêt général c'est qu'il y ait une candidature unique pour La République En Marche à Paris.
Agnès Buzyn était notre invitée, merci à vous et belle journée.